Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous transmettre quelques éléments sur l'écologie industrielle et territoriale et puis surtout sur comment on progresse dans une démarche apprenante fixée sur un territoire principalement rural qu'est l'Aube. Alors à la fois, là, je rejoins les descriptions données par Bernard Pecker, à la fois un territoire donné et construit, puisque nous sommes appuyés par les collectivités. Donc notre territoire, notre maille, je dirais, c'est le département de l'Aube. Mais au-delà de ça, ce sont des bassins de vie avec différentes opportunités. Alors je ne vais pas du tout vous faire un cours comme on peut le faire chez nous à l'Université de Technologie de Troyes, puisqu'on se base aussi sur des travaux de recherche avec une équipe de recherche à laquelle j'appartiens à l'université sur le développement durable. C'est juste pour vous redonner un petit peu les deux concepts. Alors, on en a un peu marre, nous, des trois piliers du développement durable, qui est très théorique. Et
vous n'êtes pas le
seul. Oui, alors je vous remercie de partager cette approche. On en a un peu marre de ces trois piliers, qui sont effectivement très théoriques, et on souhaite avoir une approche un peu plus pragmatique. Mais de toute façon, cette approche théorique, elle a au moins eu le bénéfice de peut-être de structurer un peu les choses dans les esprits. Donc nous, l'approche pragmatique, ce sont deux grands déséquilibres, à la fois en termes de richesse et à la fois en termes de ressources. Ce sont des mots qu'on a entendus ce matin, qui n'étaient pas toujours synonymes, en tout cas dynamiquement, dans le temps. Des fois, une ressource est une richesse et puis elle n'a plus de valeur et il faut lui en redonner. De même pour un territoire. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on cherche à faire en rééquilibrant deux grands déséquilibres entre principalement le nord et le sud à l'échelle planétaire, donc sur la répartition des richesses et sur la consommation des ressources et leur raréfaction. Du coup, on a une grande boîte à outils qui est le développement durable et dedans, on vient piocher des choses et notamment, nous, on y pioche l'économie circulaire, l'écologie industrielle et territoriale, appelez-le comme vous voulez. C'est une démarche donc, de territoire, c'est une démarche de réseau, démarche d'hommes, qui vise à valoriser les flux d'eau, de matière et d'énergie dans des systèmes industriels au sens large, qui incluent l'ensemble des activités économiques, c'est le sens industriel anglo-saxon. Donc, ça inclut le monde artisanal, ça inclut le monde agricole, ça inclut la vie de la collectivité. Et cette dimension-là est très intéressante quand on essaie de la mettre en œuvre sur des systèmes industriels très hétérogènes. Sachant qu'on partait d'un paradigme qui était complètement faux, celui qui s'inscrivait dans une économie, je dirais, linéaire, où on peut puiser des ressources de manière infinie sur son territoire et plus globalement sur la planète, et générer des déchets en quantité illimitée. Ça, je crois que tout le monde a bien compris aujourd'hui que c'était assez compliqué de se positionner là-dessus et d'envisager quelque chose de pérenne. Là où l'écologie industrielle est intéressante, c'est qu'elle fait le parallèle avec le fonctionnement des écosystèmes naturels, avec tous les bouclages qui s'opèrent au sein de ce système. Le but est donc d'utiliser les ressources qui sont en quantité finie et de trouver des palliatifs, notamment dans des bouclages, donc à travers le recyclage, la valorisation, le réemploi, l'optimisation, et puis générer une quantité de déchets limitée parce qu'on n'arrivera pas vraisemblablement à fonctionner exactement comme les écosystèmes en circuit fermé. Ce qui implique donc d'avoir des relations entre les différents acteurs de ce système éco-industriel ou de cette symbiose, ou appelez ça également comme vous voulez. Le principal, c'est de le mettre en œuvre. Il y a deux façons ou deux étapes qui sont complémentaires, qui peuvent être l'une préalable de l'autre, mais en tout cas qui sont un moteur pour mettre en œuvre sur les territoires l'écologie industrielle. C'est dans un premier temps de faire la cartographie des flux, c'est une approche par flux, je vous le disais, on regarde les flux d'eau, de matière et d'énergie, donc de faire une cartographie des flux qui transitent par le système. Alors on peut regarder une zone industrielle, on peut regarder un bassin d'emploi, on peut regarder un département, une agglomération. Donc on va faire la cartographie des flux d'eau, de matière et d'énergie, tout ce qui rentre, tout ce qui sort, les stocks, à bilan matière. Et ensuite, on va essayer de connecter toutes les activités entre elles. C'est plus simple à dire qu'à faire. Donc ça, c'est l'optimisation du système existant. Et puis ensuite, on peut se dire, oui, effectivement, j'ai fait cette cartographie des flux, et cette connaissance fine du territoire au regard des flux qui transitent par celui-ci me permet d'avoir, me permet de donner une attractivité supplémentaire à mon territoire parce que je suis compétitif sur tel point, tel point, tel point. Par exemple, je suis producteur d'énergie en excédent parce que j'ai une unité de production d'énergie qui a été surdimensionnée. Dans ces cas-là, je vais pouvoir attirer des activités qui vont être fortement consommatrices d'énergie. J'ai un flux d'eau qui est consommé par, admettons, une papeterie. Ce flux d'eau ressort chaud. Sauf que pour la papeterie, c'est une contrainte. Parce que l'Adréal leur dit, pas plus de 35 degrés si vous voulez rejeter, sinon il faut mettre des tours aéro-réfrigérantes. Et c'est un investissement, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle investit dans des tours aéro-réfrigérants. Solution, ce qu'on appelle, nous, bout de tuyau. Alors que c'est une formidable opportunité. On a des calories à disposition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces calories? Qui est consommateur de calories? Soit à côté, qui est déjà implanté, ou bien on implante une activité consommatrice de calories. Et on va créer un bouclage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Encore faut-il le savoir. Donc, ça nécessite cette connaissance fine des flux. Et avant d'avoir la connaissance fine des flux, ça nécessite une communication entre les différents acteurs, les décideurs publics, mais aussi les décideurs privés, les chefs d'entreprise, qui vont détenir cette information. Avant d'échanger des flux, il faut échanger de l'information. Et ça, je pense que ce sera le fil conducteur de toute notre action. Donc voilà. Pour vous donner un exemple assez industriel, c'est ce qui se passe à Kalundborg. Kalundborg, c'est au Danemark. C'est une commune de 25 000 habitants, je crois, qui est portuaire et qui avait une superbe opportunité, c'est la présence de l'eau. La présence de l'eau et la ville de Kalundborg qui mettait en place un réseau de chaleur et qui a été un peu directive. Elle a obligé tous ceux qui souhaitaient utiliser de la chaleur à se connecter à son réseau. Et à partir de là, ça a été le début d'une coopération entre les acteurs. Là encore, c'était une contrainte qui s'est transformée en formidable opportunité. Donc, l'eau est utilisée par une raffinerie. Alors, vous remarquerez que ce ne sont pas les activités les moins impactantes sur l'environnement dont on va parler. Une magnifique raffinerie norvégienne, Statoil, une centrale de production d'électricité à base de charbon, une industrie de production d'enzymes industrielles. Voilà. Toutes ces activités puisaient de l'eau froide, dans le lac. Ensuite, il y avait une production d'eau usée qui a été récupérée. Là, je vous montre tous les bouclages qui se sont mis en place en une trentaine d'années. Donc, il y a eu à peu près 16 projets en une trentaine d'années. Donc, les eaux chaudes issues du process industriel de la raffinerie servaient à refroidir le process de la centrale électrique qui renvoyait cette même eau avec ses calories à travers des échangeurs vers l'activité de production d'enzymes et l'activité de raffinerie. Et ainsi de suite pour différentes qualités d'eau, je dirais. L'activité de production d'enzymes produisait des boues qui étaient tout à fait compatibles avec un épandage, donc un lien avec les fermes locales. Il y avait production de vapeur, basse pression, qui pouvait être réinjectée dans le réseau de chaleur pour le logement. Et puis, il y a eu création d'autres activités. Donc, grâce à cette opportunité vapeur, la création de serres avec du maraîchage et puis la création d'une ferme aquacole. Là où c'est vraiment très intéressant, parce qu'on sort de l'eau et de l'énergie cette fois, on est sur la matière. Vous aviez une activité de production de panneaux, vous savez, les panneaux de plâtre qu'on met pour isoler dans nos maisons. La société s'appelle Gyproc et elle est s'approvisionner au Portugal, de s'approvisionner en gypse, la base pour le plâtre. Or, le traitement des fumées dans l'unité de production d'énergie produisait une espèce de poudre qui est du gypse. Et la quantité de ce gisement à quelques kilomètres était suffisante pour l'ensemble de l'activité de Gyproc. Ce qui fait qu'au lieu de considérer ces résidus de filtres de fumée comme un déchet dont il fallait se séparer, il a suffi, et aller chercher au Portugal de la matière première, il a suffi de transformer un petit peu le procédé pour accepter cette qualité un petit peu différente de gypse, et ça a pu rentrer dans l'entreprise voisine. Il y a eu également des échanges de gaz, donc des gaz de la raffinerie vers Gyproc pour utiliser sous forme de production d'énergie. Le soufre, qui est un déchet de la raffinerie, a permis de créer une usine sur place de production d'acide sulfurique, qui était ensuite utilisée dans tout le secteur de la chimie. Et enfin, les cendres issues de la production d'énergie allaient en cimenterie. Donc voilà, là vous avez vraiment un panorama avec tout un tas de bouclages. Je dirais que c'est un petit peu la Mecque de l'écologie industrielle. Ça s'est fait comme ça. Malheureusement, ça n'existe nulle part ailleurs. Alors pourquoi ça n'existe nulle part ailleurs? Pourquoi ça existait là? C'est tout l'objet d'un certain nombre de travaux qui sont menés en France et dans le monde sur l'écologie industrielle. Et moi j'ai une partie de la réponse. C'est contextuel. Voilà. On ne peut pas transposer systématiquement les choses. Il faut regarder quelles sont les opportunités des territoires et comment fonctionnent les hommes, quelle est la culture locale pour pouvoir avoir un certain nombre d'échanges possibles. Alors, je pense que vous aurez les transparents, donc je ne vais pas m'attarder sur les différents points positifs en termes de limitation des impacts sur l'environnement, bien que ces activités, je vous le rappelle, ne sont pas les activités les moins impactantes à la base. Ça permet d'optimiser le système. C'est une partie de la réponse. Ce n'est pas ce qui fait qu'on tend vers un développement absolument durable. Il y a d'autres choses à faire à côté, mais c'est tout à fait complémentaire. Donc vous verrez ça, mais c'est à la fois un couplage entre la limitation des impacts sur l'environnement et un gain économique qui peut permettre de réinvestir dans des choses peut-être plus pérennes. Alors nous, on a essayé de mettre ça un petit peu en musique à l'échelle de l'Aube, et on a créé en 2003 le Club d'écologie industrielle de l'Aube. Alors club, un petit peu comme lieu d'échange, puisque à la base, la Chambre de commerce et d'industrie était là, la Chambre d'agriculture également, et ils avaient l'habitude d'avoir des clubs. Le club des repreneurs d'entreprise, le club de la qualité, le club environnement, etc. Donc on est rentré dans cette logique de club. Puis on s'est formalisé en association en 2008, et aujourd'hui il y a une vingtaine de membres. Alors il y a une vingtaine de membres, ça ne veut pas dire qu'on travaille qu'avec ces 20 là, ça veut dire que ce sont 20 membres qui ont souhaité s'investir dans la réflexion avec nous. Alors vous avez aussi bien des collectivités, le conseil général, la ville de Troyes, l'agglomération, le syndicat départemental des déchets, des établissements d'enseignement et de recherche et de formation, l'université de technologie de Troyes que j'ai cité tout à l'heure, mais également deux lycées agricoles, le lycée de Saint-Pouange et le lycée de Sainte-Maure. Vous avez donc des chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture de l'Aube, des groupes que vous connaissez sûrement, par exemple Nourricia, des unités de déshydratation, par exemple CAPDA, puisque en Champagne-Ardenne on a pas mal de luzerne et qu'on déshydrate beaucoup, des sociétés industrielles de type Rousset et Fage pour les travaux publics, et j'en oublie quelques-unes, mais elles sont à peu près toutes là. Alors on a un fonctionnement qui est assez simple. On a 4 collèges qui regroupent un petit peu toutes les catégories de membres dont je vous ai parlé. Chacun a un vice-président au sein du bureau, et puis on a un bureau qui, c'est notre volonté, regroupe des décideurs locaux, publics, privés, mais des décideurs. Ça doit être un lieu de réflexion, mais aussi d'action. Et pour agir, il faut avoir directement la personne qui peut appuyer sur le bouton. Donc notre bureau, c'est le vice-président du Conseil général, Nicolas Juillet, que vous connaissez bien et que M. Fauconnet connaît bien. Le président de notre Conseil général, Philippe Panneau, est parrain de votre association, d'ailleurs. Donc, le vice-président du Conseil général comme président de notre association, le président de la Chambre de commerce comme secrétaire général, des industriels qui sont secrétaire général adjoint, trésorier, le vice-président de la Chambre d'agriculture qui représente les représentations professionnelles, etc., etc. Et ce petit bureau se réunit à peu près tous les deux mois et on fait avancer nos réflexions, nos projets. Donc on n'a pas de salariés, nous, à l'association. Moi, je suis agent du Conseil général de l'Aube, mis à disposition de l'université pour y faire du transfert de technologie et des partenariats. Mais dans mes missions, je coordonne le club. Et on fonctionne par projet. Donc par projet, on trouve des acteurs porteurs, on trouve des financements et on avance. Alors on donne aussi de l'information. C'est un lieu de sensibilisation. On donne de l'information, notamment on avait créé les rendez-vous des décideurs. Donc sur une demi-journée, on concentrait des interventions de 45 minutes sur des sujets clés pour des décideurs publics privés et on les sensibilisait à quelque chose qui nous semblait pertinent dans une logique de développement durable du territoire, durable des activités économiques aussi, puisque ça va de pair de toute façon, et on souhaitait leur donner quelques clés. Et ensuite, à eux d'aller creuser ou de transmettre à leur service s'ils souhaitaient s'investir dans la thématique et qu'ils estimaient qu'ils devaient s'en emparer. On a un fort lien avec le domaine de la recherche, je l'évoquais, l'opportunité du territoire, pourquoi ça s'est fait dans l'Aube, c'est parce que le directeur de l'équipe de recherche sur le développement durable à l'université, lors d'un dîner avec le président du Conseil général, le président de la Chambre de commerce, se sont dit, bah, tiens, oui, l'écologie industrielle, c'est très intéressant, c'est ce que vous faites à l'UTT, pourquoi on ne mettrait pas en œuvre chez nous ? Et depuis lors, on a vraiment ce lien entre recherche et action territoriale. Et dans le cadre d'un projet de recherche active, on va dire, de recherche ancrée sur le terrain, qui s'appelle Comet, on a décidé d'inclure 7 terrains d'expérimentation en France, dont 3 se trouvent dans l'Aube pour les raisons que j'évoquais précédemment. Donc, c'est un gros projet financé par l'Agence nationale de la recherche. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a pu mettre en place, un exemple qui est assez pédagogique et qui nous a permis aussi de créer une dynamique. Ça, je pense que c'est très important. Quand on met en place ce genre de choses, on peut partir dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est partir dans le bon sens. Et pour ça, il faut créer une dynamique. Et cette dynamique, elle se crée quand il y a un exemple parlant, à partir duquel on peut communiquer, et puis après, construire le lien. Et donc, ça s'est fait à travers ce qu'on appelle, nous, la synergie des sables. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, ce n'est pas très grave, je vais vous l'expliquer. Donc, en Champagne-Ardenne, on a pas mal de betteraves, betteraves à partir desquelles on produit du sucre. Donc, jusqu'ici, les betteraves arrivaient terreuses dans la sucrerie et elles étaient lavées. À l'issue de ce process de lavage, on obtient des betteraves qui rentrent dans le process sucrier et de l'eau. Cette eau est décantée, on en tire de la terre, du sable et de l'eau. Donc la terre était rendue à la terre, l'eau était rendue au milieu et il restait le sable. Le sable était épandu dans un rayon qui était plus restreint que le rayon d'approvisionnement et qui avait tendance à déstructurer un peu les sols. Par ailleurs, il y avait la présence d'un graminé qui n'était pas forcément souhaité par les agriculteurs sur la terre desquelles on épandait ces sables. Donc, il y avait un petit souci d'élimination de ce sous-produit, de ce déchet, de ce coproduit, appelez ça comme vous voulez. Un petit souci qui pouvait coûter cher, puisque au-delà de l'épandage dans les champs, au-delà de l'épandage, enfin de la consolidation des chemins, des fois, ils étaient contraints à de l'enfouissement. En centre de classe 3. Alors, ne regardez pas le coût, c'est une erreur. Hein. C'est un peu trop important. Donc, on était sur 6 à 12 000 tonnes de matériaux par an. Et à côté de ça, il y avait Appia Champagne, donc groupe Eiffage, qui exploite des carrières, qui met en œuvre des projets de travaux publics et qui, donc, avait besoin de cette ressource, qui est de plus en plus rare, notamment à la périphérie de l'agglomération parisienne, puisque quasiment la totalité des matériaux est drainée vers la région parisienne pour la construction. Donc, il a suffi de les mettre en lien, d'écrire une convention d'échange. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'argent. Et cette synergie a pu avoir lieu. Donc, les sables qui sont issus de ce process on subit une petite analyse au niveau de la granulométrie, au niveau de la composition physico-chimique, et derrière, on a pu décider quels étaient les usages qu'on pourrait leur donner en technique routière. Cette convention stipule simplement que quand le tas est suffisamment grand, Cristal Union appelle EFAGE qui charge des camions qui sont venus pleins de betteraves et qui repartiront, donc plutôt que de repartir à vide, repartiront avec du sable à l'intérieur. Cristal Union met son pont bascule à disposition et puis EFAGE s'en sert dans des projets locaux. Par exemple, il y a eu le bouclement de la rocade sud-est de l'agglomération troyenne sous les fourreaux où on met la fibre optique et un certain nombre de choses au bord de la route, eh bien, il y avait cette sous-couche de sable. Donc, c'est 6 à 12 000 tonnes qui viennent compléter les 400 à 500 000 tonnes nécessaires par an. Donc, c'est pas, dans les ordres de grandeur, il y a encore beaucoup d'autres synergies à avoir pour compléter cet usage de matières premières secondaires. Mais c'est un premier pas. Et c'est assez emblématique puisqu'il n'y a pas de transformation intermédiaire. Il y a une traçabilité qui s'opère et des jeux d'opportunités en fonction des chantiers. Donc voilà. Et ce qui intéressait Cristal Union, c'est vraiment qu'on a une filière pérenne. Donc à la fois, on diminue les émissions de gaz à effet de serre avec du transport en moins. Plutôt que d'aller chercher dans le Morvan des matériaux dans les carrières d'Eiffage, eh bien, on les a à Arcis-sur-Aube, dans le nord du département. Et puis, on a également un allongement de la durée de vie de ces carrières. On a un usage local. Et celle-ci, au moins pour une fois, ça contredit ce que je vous disais tout à l'heure, est complètement reproductible dans toutes les sucreries. Autour, il y a toujours un acteur des travaux publics qui sera prêt à reprendre ce sable. Donc là, n'hésitez pas autour de vous, si ça ne se fait pas déjà, à le faire mettre en œuvre. Donc voilà, une synergie assez simple, où on avait deux acteurs qui s'ignoraient, on les fait se rencontrer et ils travaillent ensemble. Alors, on a également d'autres exemple d'écologie industrielle qu'on a pu mettre en place au niveau du territoire, notamment sur cette fameuse rocade, puisque là, il y a eu tout un jeu d'opportunités avec un travail au niveau de la connaissance des flux. Il y a eu une déconstruction de l'autoroute, d'une bretelle d'accès à l'autoroute juste à côté, ce qui permettait d'avoir des matériaux recyclés. Il y a eu également... Il y avait création d'un parking en centre-ville et tous les matériaux du parking souterrain sont allés dans cette rocade, et ça a permis d'économiser 11 000 tonnes de matériaux sur les 38 000 mises en œuvre. C'est quand même assez conséquent. Et là, le Conseil général a été plutôt gagnant, puisque sur un marché de l'ordre du million et quelques, alors là, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, ils ont gagné 400 000 euros. 400 000 euros, rien qu'en acceptant une variante environnementale. Là aussi, la puissance publique a des leviers d'action sur cette dynamique, on va dire, en autorisant les variantes et en ayant de bonnes surprises comme celle-ci, parce qu'une connaissance fine du territoire était d'ores et déjà là. Et le rôle du club dans ces cas-là, ça a été de faire valoir ce qui s'était fait de bien, et donc on a monté un dossier prix entreprise environnement, et on a eu le deuxième prix en 2008, remis à Polutech par la ministre de l'époque. Alors, j'ai d'autres exemples sur une distillerie qui était une ancienne sucrerie qui fait partie du groupe Cristal Union, qui a valorisé un outil de travail, qui a valorisé un savoir-faire pour se reconvertir dans le domaine de l'écologie industrielle. J'ai un exemple de terroir, là encore, autour de l'Andouillette, alors qui n'est pas encore dans ce que citait monsieur tout à l'heure, mais qui peut-être fera partie de ce genre d'initiative. L'Andouillette 2-3, c'est une production qui génère du gras dans les réseaux, et qui génère des eaux grasses, et ces eaux grasses peuvent être vues comme un gros problème ou bien comme une opportunité productrice d'énergie, puisque la graisse, ça brûle. Et donc là, on avait un industriel assez clairvoyant qui a décidé de traiter ses eaux, de solutionner son problème de gras en le brûlant dans une chaudière dédiée, et du coup en économisant du gaz et en ayant une activité un petit peu plus bouclée, hein, puisque c'est l'objet chez nous du club d'écologie industrielle de l'eau. Donc voilà, on a un certain nombre d'actions en lien avec les acteurs du territoire, que ce soit le monde agricole, le monde de l'artisanat ou le monde industriel, et les collectivités. Et ça nous permet d'avancer. On a eu également des travaux dans le domaine du champagne, puisque c'est aussi une production locale, sur le potentiel d'écologie industrielle de l'entreprise champagne. si tant est qu'il y a eu une entreprise Champagne, avec le comité interprofessionnel du vin de Champagne. Et ça nous a amené à des conclusions très intéressantes. D'ailleurs, une synergie est aujourd'hui mise en œuvre. Aujourd'hui, ce sont des boîtes de taille qui vont en tant que biomasse dans les chaudières chez Saint-Gobain, qui produit les bouteilles qui servent à embouteiller le champagne. Donc voilà, on est dans cette logique de bouclage, l'idée étant de rendre tout cela de plus en plus systématique. Donc rendre tout cela de plus en plus systématique, ça veut dire qu'il faut mettre tous ces acteurs du territoire en lien pour pouvoir détecter les opportunités et avoir un vrai travail de fond. Et j'en profite, puisque des étudiants d'AgroParisTech sont dans la salle, pour vous dire qu'on a un stage à ce sujet, un stage sur le bilan des flux agricoles dans le département. Aujourd'hui, de plus en plus de prospecteurs viennent nous voir avec des projets toujours formidables et se basent toujours sur le même gisement. Et ça, c'est assez problématique pour un territoire, puisque un même gisement ne peut pas avoir plusieurs usages, en tout cas pas dans un temps donné. Et donc, on a décidé d'avoir un éclairage supplémentaire donné par ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, on fait le métabolisme, on fait le bilan de ces flux et proposer des opportunités pour leur valorisation. Voilà, j'espère que j'ai pas été... trop long, et puis si vous voulez plus de détails, on aura l'occasion de discuter.